Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Vous écoutez Radion, il est 11h passé de quelques secondes. Un très grand bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec notre invité que sans tarder je vous présente. Patrick Chavardès, bonjour Patrick Chavardès.
Bonjour.
Patrick Chavardès, nous nous sommes rencontrés il y a 12 ans alors que... Et c'est la raison pour laquelle je vais te tutoyer. Patrick, tu étais en résidence d'écriture à la maison Jules Roy, à Vézelay. Et à l'époque, nous avions enregistré un numéro de Wagon Livre. Les années ont suivi, d'autres livres ont paru. Mais celui qui va nous intéresser aujourd'hui a pour titre « Rue de Gibraltar ». Il est paru il y a quelques mois aux éditions Banlieue Est. Alors, Patrick, te présenter, je le fais... En m'appuyant sur les éléments biographiques qui sont donnés par la quatrième de couverture, tu es né à Paris, ta maman est Marilène Clément, ton père Maurice Chavardès, des parents écrivains. Une maman éditée chez Gallimard, un papa journaliste littéraire, romancier édité notamment chez Actes Sud, journaliste également, une famille très intellectuelle.
Assez, oui.
On en reparlera parce que
oui.
Le héros de Rue de Gibraltar a un peu le même profil que toi. Tu as vécu à Champigny, tu as fait des études de philosophie à Vincennes, tu résides en Bourgogne, tu habites en Saône-et-Loire, très précisément à Chalon-sur-Saône. Et puis tu as publié plusieurs ouvrages dans des genres différents, des récits, des nouvelles, des poèmes. Tu aimes aussi écrire des textes de chansons. Tu aimes beaucoup la chanson française, Léo Ferré, Fanon. Quels sont les grands noms de la chanson française que tu aimes fredonner?
Tu viens d'en dire trois, mais je ne sais pas si tu te souviens. Moi, j'ai cette mémoire-là, justement, des chansons. Et dans l'émission, on avait passé la chanson L'écharpe de Maurice Fanon. Si je porte à mon cou, en souvenir de toi, cette écharpe de soie que je portais chez nous, etc. Ça, c'est un pur poème. Et puis, bien sûr, Brel, Assens, Léo Ferré, Catherine Sauvage, tous les gens de la rive gauche de l'époque de Saint-Germain-des-Prés.
Tu écris aussi des scénarii. Et puis, es-tu toujours éditeur? Les éditions Le Limon, que deviennent-elles?
Eh bien, c'est en stand-by, on va dire. Enfin, disons que j'ai arrêté pour la bonne et simple raison que ça me prenait beaucoup de temps et que j'avais vraiment envie d'écrire pour mon propre compte.
Alors, on avait parlé, je me rappelle, de L'Espérance à point fermé, Une chance noire également. Et puis, tu es un lecteur assidu et régulier de Bataille, parce que lorsque tu es venu à Vézelay, on sait que Georges Bataille a vécu plusieurs années à Vézelay. Il est d'ailleurs enterré au cimetière de Vézelay. C'était l'année, je crois, du 50e anniversaire de sa mort. Et tu étais déjà très, très engagé
oui.
dans la redécouverte, la relecture oui. de Bataille, qui aujourd'hui est peut-être un écrivain un peu en sommeil.
Oui, en sommeil, oui.
Ce que tu aimes aussi, c'est la dimension philosophique dans oui. toute œuvre, oui. y compris oui. de fiction. Tu aimes les idées. Oui. Alors parlons de Rue de Gibraltar. Rue de Gibraltar met en scène un homme qui se trouve dans le deuil. Il vient de perdre la femme avec laquelle il a passé une grande partie de sa vie. Il se prénomme Stan. Tout comme toi, il est né à Paris. Il a connu des épisodes d'excès dans les bars, d'alcool, de soirées bien arrosées. Il a démissionné au début du roman. Hein, on apprend qu'il a démissionné de son poste de journaliste à l'Universel en désaccord vraisemblablement avec l'équipe éditoriale du journal parce qu'il s'est rendu compte que Finalement, la presse ne publiait pas ou ne voulait pas publier un article, notamment un article dans lequel il prenait fait et cause pour les prostituées.
Oui.
Et alors, en fin de compte, le roman s'ouvre dans la ville de Sète, parce qu'on est beaucoup dans ce roman avec des villes en bord de mer ou traversées par un fleuve. Alors, il y a Sète, il y a la ville italienne de Trieste, on y reviendra, et puis il y a aussi Nevers, dans la Nièvre.
Oui. Et oui. Bien sûr, et il y a Paris aussi.
Il y a Paris.
Un petit peu.
Oui. Alors, est-ce que ce personnage de Stan a une épaisseur autobiographique ?
Ah.
Est-ce que l'histoire que tu nous livres dans Rue de Gibraltar est librement inspirée des pans de ta propre existence ?
Oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Il y a des choses transformées, mais il y a énormément de choses, comme tu as dit, le milieu intellectuel... les études philo, enfin, disons qu'il a été aussi engagé, plutôt à l'extrême gauche. Il a eu cette femme avec laquelle il était engagé. Il a vécu des années comme ça d'engagement. Enfin, l'engagement, c'est un vieux mot, disons, de militantisme, ou appelons ça comme ça, dans cette espèce de groupe qui s'appelait les Lions Noirs, où ils étaient plutôt des anarchistes, voilà, pas terroristes, mais enfin quand même assez radicaux.
Stan et sa défunte femme Vera ont effectivement eu une très belle histoire d'amour, mais ils avaient aussi le goût de l'action politique libertaire, anarchiste.
Oui, tout à fait, oui, ça allait ensemble, c'est une génération, c'est pas la génération des années 70, c'est la génération d'après, puisque Stan, dans le roman, a une quarantaine d'années. Vera avait aussi cet âge-là, mais en fait, ils étaient très inspirés par leurs prédécesseurs, etc. Quoi. Puis le goût de la littérature, de la musique, des chansons, mais aussi du rock'n'roll, rien de fait de foule ou d'autres.
Au moment où s'ouvre le roman, Stan est un homme qui est dans le deuil, qui cherche le chemin pour retrouver le bonheur. Il a besoin de se reconstruire et on a l'impression qu'il est dans une sorte d'errance.
Oui, il est dans une errance, oui. Mais
il ne sait pas où se poser. En tout cas, géographiquement,
oui,
il ne sait pas trop où s'établir.
À ce moment-là, oui, c'est très net. Mais enfin, déjà, c'est quelqu'un qui est quand même un promeneur solitaire ou pas, dans les villes, il a voyagé un peu, etc. Et donc... Oui, il y a une errance. Il est dans l'errance parce qu'il est aussi dans le deuil. Il a perdu son boulot, il ne sait plus trop quoi faire. Il passe son temps à comater, à dormir, il boit un peu, il va dans les bars, il va dans les bars de Sète, etc. Et c'est là que ça commence.
Il a des velléités d'écriture.
Oui, même des volontés, mais disons que enfin là, il est en stand-by, on va dire aussi, pour reprendre
un
mot facile.
C'est un peu un cabossé de la vie, certes, c'est pas... Il est malheureux au moment où s'ouvre le roman, mais il a connu des pages de bonheur et d'amour avec Vera. Et puis, on y reviendra parce que c'est un thème qui est illustré dans ton roman, Patrick. C'est que Vera était atteinte d'une maladie, elle se savait condamnée, et elle a demandé à Stan de lui donner des médicaments parce qu'elle voulait se suicider.
Oui.
Et le thème du suicide...
Oui.
D'ailleurs, Stan, à un moment, parle du suicide. Oui. Il dit, on ne sait pas pour quelles raisons les gens se suicident, mais on sait pour quelles raisons ils ne se suicident pas. Il dit, c'est parce que les gens sont lâches.
Voilà.
C'est intéressant, ce thème du suicide, mais on y reviendra peut-être ultérieurement.
Bien sûr.
Sur Stan... Non, mais c'est important parce que le roman est plein de réflexions sur la nostalgie, comment traverser un deuil. Il y a la nostalgie aussi parce que il semblerait qu'en vieillissant, il y ait une sorte de volonté ou c'est inconscient de retour à l'enfance. Il y a beaucoup de souvenirs anciens. Il repense à Nevers, à la maison de sa marraine. Il y a des choses qui remontent à la surface de sa mémoire, peut-être pour le consoler d'une certaine manière. Et puis surtout, il cherche des lieux qui pourraient lui convenir, où il pourrait redémarrer une existence heureuse.
Oui, Enfin, il les cherche, c'est peut-être les lieux qu'il cherche. Enfin, dans sa tête, comme il est en errance aussi, c'est une errance mentale et géographique. Mais des fois, il pense, en fait, quand il est là, il pense à un endroit et il y va parce qu'il y a pensé que là, il est tellement habité par le souvenir qu'il a envie de provoquer le souvenir. Alors, il fait l'expérience, la fameuse expérience proustienne, mais enfin à l'envers, c'est-à-dire qu'il provoque le souvenir, il ne se passe pas forcément quelque chose, puisque chez Proust, c'est la mémoire involontaire. Enfin bon, c'était juste pour faire un petit détour par Proust. Bon, mais c'est pas. Voilà, c'est pas
Alors
forcément.
Stan y fait.
J'allais dire, je peux dire une. J'allais dire Proust, c'est pas forcément ma tasse de thé. C'est quand même.
Ah oui. Stan, lui, au moment où s'ouvre le roman, est dans cette ville de Sète. Et rappelons le titre du roman, Rue de Gibraltar. Quelle est donc cette rue de Gibraltar? Patrick Chavardès.
Cette rue de Gibraltar, elle n'existe pas à Sète. Voilà, je dis l'entière vérité. Mais la rue de Gibraltar, elle existe dans plein d'endroits. On la trouve peut-être à Paris, on la trouve dans plein d'endroits de villes du Sud, on la trouve dans d'autres endroits d'Europe, etc. Je ne sais pas pourquoi, je trouve ça assez. Le mot Gibraltar, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est surtout cette évocation du rocher, quoi, de Gibraltar, du détroit de Gibraltar. Il y a quand même quelque chose d'assez impressionnant, qui pour moi a à voir avec l'imaginaire et même le fantasmatique tout de suite, d'emblée.
Alors,
C'est compliqué hein, de parler de ça, mais pourquoi, je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a des gens qui peuvent comprendre quoi, enfin, ça, il faut ressortir ça. La
la
rue
rue de
Gibraltar.
à Sète, là, la rue de Gibraltar à Sète, c'est une rue où il y a surtout des cafés qui ont mauvaise réputation. Puis il y a un café dit libertin qui s'appelle Le Boudoir. Et l'errance de Stan, qui a besoin de cicatriser l'absence et le deuil de Vera, cette errance va le conduire à pousser la porte
Voilà,
de ce café libertin.
un
Et
des.
là,
Ouais, voilà.
que se produit-il?
Ben, il se produit qu'il voit une fille qui s'appelle Lola et qui est
Elle a
tout
31 ans.
à peu près et qui le trouble. C'est de l'ordre du trouble. Un seul regard suffit pour être troublé. La fille est belle, bon, enfin. Lui, il la trouve belle et elle l'est, assurément. Et d'ailleurs, il est tellement enfin, ému, impressionné qu'il va boire un verre vite et puis mettre l'argent sur la table et sortir, mais il reviendra.
Alors il rencontre aussi Tony, qui est une sorte de mauvais garçon qui. C'est amusant parce que comme on est dans une ville portuaire, j'ai pensé à une espèce de mauvais garçon comme Jean Genet pouvait les aimer,
Bien
le
sûr.
port, les marins. J'ai pensé à
Bien
Jean Genet, alors qu'il
sûr.
n'y a pas du tout de référence à Jean Genet. Et des références à
Non.
Marguerite Duras,
Oui.
Verlaine,
Ça se tient tout ça.
César Pavès,
Oui.
James Joyce. On en reparlera de ces
Absolument, oui.
écrivains.
Mais oui.
Tu n'as pas de lien. Tu m'as
Avec.
rarement parlé de Jean Genet. T'as pas un
J'ai pas de
lecteur de
lien
Jean Genet.
particulier avec Jean Genet. Enfin, je veux dire, j'ai visité sa maison de son enfance, là, dans le Morvan, puisque le Morvan, c'est un lieu où je vais. Mais j'ai lu Jean Genet, j'adore Notre-Dame des Fleurs, j'adore les poèmes de Jean Genet, j'en connais par cœur et tout. Jean Genet, pour moi, c'est un des plus grands écrivains du siècle dernier, pour le dire vite. Français, quoi.
Il a
Oui, il y a
peut-être.
un style. Enfin, Jean Genet, c'est. Je ne veux pas dire que c'est supérieur à telle ou telle personne, mais très connu aussi, mais enfin, ça vaut du ras, quoi. Ça vaut. Voilà, c'est des très grands, ça.
Alors, je rappelle
On
que
va pas
Jean
comparer
Genet.
non plus avec Joyce ou. Parce que c'est déjà différent. Mais César Les Pavessés aussi. Mais alors bon, après, César Les Pavessés, j'ai lu des traductions. Alors elles sont bonnes, sans doute, mais faudrait lire en italien. Enfin, je crois, oui, c'est ça. Il écrivait en italien, à moins que je dise des bêtises et qu'il écrivait en français. Non, non, il n'a pas écrit en français.
Jean Genet, je rappelle, donc, qui est un enfant de l'assistance publique,
Oui.
qui a qui était dans une famille d'adoption à Aligny-en-Morvan, donc toute petite ville de la Nièvre. Et c'est d'ailleurs François Mitterrand qui a fait appliquer une plaque sur la maison. Alors, la plaque existe toujours et je crois que la maison est devenue maintenant, a été divisée en différents appartements.
Cher François Mitterrand.
Cher François Mitterrand que ta maman, Marie-Hélène Clément, connaissait.
Oui, de loin, enfin.
Parce que ta maman est née à Villapourçon, dans la Nièvre.
Oui, on n'est pas loin, Ce fut une époque où Mitterrand invitait les écrivains, j'allais dire par milliers, par centaines, à l'Élysée.
Puisqu'on on parle de tes parents, donc Marie-Hélène Clément et Maurice Chavardès, tu dis dans le roman, puisque Stan lui aussi avait des parents écrivains, et parlant d'eux, il dit de ses parents qu'il faisait un sale boulot, un métier qui n'en est pas un.
Oui.
Et il parle aussi de cette maison silencieuse. Oui. Tu as connu cela aussi ?
Oui, bien sûr, oui. Les écrivains dignes de ce nom, à l'époque, n'écrivaient pas en écoutant du rock'n'roll. Et il fallait que la maison soit silencieuse, donc que les enfants fassent pas trop de bruit. Il n'y avait pas de télé à la maison. Enfin, il y avait un minimum de règles assez spartiates, ou je ne sais, pas monastiques, mais spartiates, disons, pour que le silence soit et que l'inspiration vienne, ce qui est pas évident. Mais puis intellectuel de gauche avec des idées bien précises et des idées surtout.
Ton père a été journaliste à Témoignage Chrétien, qui est un journal de...
Pas que. Oui, un journal de chrétien de gauche, mais qui était très proche par moment du Parti communiste. Vraiment très très proche.
Alors un père qui était méditerranéen et une mère nivernaise.
Oui, voilà, qui elle était plus éloignée de la politique, avait plus une approche poétique du monde, des êtres, etc. Et peut-être que je tiens d'elle là avec ça, quoi.
Alors, on a parlé du silence dans la maison où des parents écrivaient. Ben, pas de silence dans Wagon Livre, mais une première pause musicale avec un titre qui figure dans ton roman. Est-ce qu'on pourrait faire une petite playlist des chansons évoquées dans ton roman Rue de Gibraltar ? Il y a du Johnny Hallyday, il y a du Marianne Faithfull, il y a du Iggy Pop. Et on va écouter Barry Manilow, Copacabana. Oui. C'est Patrick Chavardès qui nous accompagne aujourd'hui dans Wagon Livre sur Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et nous parlons de Rue de Gibraltar. Et nous revenons d'ici quelques minutes.
Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her leg. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the Copacabana? His name was Rico, he wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copacabana? The hottest spot north of Havana. Here at the Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love.
Her name is Lola, she was a showgirl, but that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she's lost her mind at the Cobra, Copacabana. The hottest spot north of Havana.
Here
at the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. Don't fall in love. Don't fall in love.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Rue de Gibraltar, c'est le titre du dernier roman de notre invité Patrick Chavardès. Patrick, juste avant la pause musicale, nous parlions de l'ambiance feutrée et silencieuse d'une maison dans laquelle travaillent des parents écrivains. C'est ce que ton héros Stan a connu, c'est ce que toi-même, enfant et adolescent, oui, tu as connu. Revenons à Stan qui fait cette rencontre troublante et qui redonne un peu de sens à son existence. Cette Lola prostituée de 31 ans est sensible, cela peut surprendre, à la poésie.
Oui, ça peut surprendre, mais pourquoi en fait, en fonction de... Pour le coup, ça surprend en fonction d'un préjugé, parce que il y a des gens simples, il y a des gens pas cultivés, il y a des gens pas instruits qui peuvent être sensibles à la poésie, comme on peut l'être à la musique. Je dirais que c'est plus facile avec la musique, parce qu'il n'y a pas le langage, donc il n'y a pas des mots compliqués, ces mots qu'adorent les intellectuels. Mais bon, Stan aime bien la poésie simple aussi. Enfin, il aime d'abord les chanteurs, et puis il aime aussi la musique... simple aussi. Marianne Faithfull, c'est de la chanson. C'est pas la musique sacrée.
Ce qui surprend, c'est que Stan, dans le deuil, dans le souvenir de Vera, parce qu'il essaie d'estomper la douleur liée à la disparition de la femme avec laquelle il a passé de nombreuses années. Ce qui est surprenant, c'est qu'il rentre dans ce café libertin et que tout de suite, qu'il s'entiche de la prostituée Lola.
Qu'est-ce qui...
Tu as voulu surtout, en fait, quelque part, raconter un coup de foudre déterminant qui va provoquer un séisme affectif et sentimental dans la vie de Stan.
Oui, oui, oui.
Alors, il dit, c'est amusant, qu'il a été le client ordinaire d'une prostituée et... Un peu plus tard, c'est assez drôle, ça fait sourire, et il y a beaucoup de réflexions souriantes. J'ai été avec Lola un client pire que les autres, encore plus voleur puisque je ne l'ai pas payé. Mais quand je pense à elle maintenant, j'ai les larmes aux yeux. C'est une femme qui le bouleverse.
Voilà. Alors, c'est ça l'être humain.
Je te confiais le fait que des écrivains qui ont côtoyé des prostituées, bien sûr, il y en a. Je pensais aussi, et je reviens à Bataille,
oui,
qui lui aussi,
oui, oui,
alors ne consommait pas avec les prostituées, pas il les
trop.
Prenait sur ses genoux, et puis...
Je ne sais pas trop ce qu'il faisait, enfin bon, je n'ai pas étudié à fond la Bataille de ce côté-là. Enfin, moi, j'ai lu la somme érotique de Bataille, enfin ce qu'il a fait, tout son volume sur l'érotisme, j'ai trouvé ça très fort. C'est quand même un des premiers, au milieu du siècle dernier, à s'être attaqué à ça. Après, il y a Bernard Noël, qui a fait un gros livre aussi chez POL. Il y a plein de gens. Alors après, c'est toute la question de... C'est quoi l'érotisme, etc. La vision masculine aussi de l'érotisme, etc. Donc Stan est assez masculin. Mais en réalité, il est sensible, il est... Peut-être qu'il a un côté pas macho, mais il a quand même un côté très, très direct. Enfin, déjà, bon, tout le monde ne pousse pas la porte de ce genre d'endroit. On sait bien que, voilà, il s'attendait bien quand même à, dans un bar libertin, à trouver quelque chose d'érotique, au moins d'érotique. Mais ça, il est dépassé parce que ça ira beaucoup plus loin.
Alors, il pousse peut-être sans difficulté la porte d'un café libertin parce que jadis, il a défendu le statut des prostituées.
Exactement.
Et qu'il a pris position contre la pénalisation des clients de prostituées.
Des clients et des prostituées elles-mêmes, puisqu'il y a eu une loi à un certain moment qui a été votée, enfin un décret, qui pénalisait les clients des prostituées. Donc les prostituées étaient... Il y a la fameuse histoire de Vanessa Campos, qui était un transsexuel du bois de Boulogne, et qui a été assassinée à coups de couteau. Elle, c'était assez grave. Bon, il y en a eu d'autres, d'assassinés. Mais pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, elle se cachait, au lieu d'être en lisière de la rue, elle se mettait plus dans l'obscurité, dans le bois. Donc, elles étaient agressées plus facilement. Ça, c'est des choses que les politiciens ne peuvent pas, ça ne leur vient pas à l'idée. Ce sont des gens très bien. Enfin, il paraît.
Il y a une réflexion amusée, parce que Stan est tout de même un peu dans un humour un peu provoque. Il y a la scène, c'est avec Étienne, là c'est à Nevers, où il y a les urnes qui contiennent donc les cendres de son père, de sa mère et de sa belle-mère. Et à un moment, il dit à Étienne, alors qu'il passe sur le pont qui enjambe la Loire à Nevers, il dit ben, on pourrait jeter leurs cendres dans la Loire. Il y a un petit côté provocateur de Stan qui te ressemble un peu.
Peut-être.
Oui. Alors justement, concernant l'orgasme, Stan, et c'est écrit dans le roman, l'orgasme, c'est un truc instantané, le même pour tous, qui nécessite le rapprochement de deux corps. Tout le monde devrait y avoir droit, c'est universel.
Oui, qu'est-ce que je peux rajouter
Je t'invitais à...
C'est une évidence, c'est une évidence. Bon, c'est un vœu pieux, évidemment, de dire que tout le monde devrait y avoir droit, parce que les droits, tout le monde veut aujourd'hui ceci, cela. Mais c'est vrai que, j'y reviens pour le coup, c'est triste qu'il y ait des hommes seuls, qui sont seuls pour X raisons, et qui ne fassent pas l'amour, n'aient jamais droit à l'orgasme, puisqu'on parle de l'orgasme et qu'on le nomme, c'est infiniment triste. Et qu'il y ait des femmes qui proposent de procurer ça à des hommes moyennant de l'argent, je ne vois pas ce qu'il y a d'immoral. Voilà. Ce qui est immoral, par contre, on ne va pas faire un débat sur la prostitution là maintenant, ce qui est immoral, c'est les proxénètes, les macros, etc. C'est-à-dire les gens qui font travailler les filles et qui leur soutirent les trois quarts de leur argent. Mais aujourd'hui, ça a changé. Il y a des indépendantes, j'en sais trop rien aussi, je ne suis pas non plus un spécialiste, mais en tout cas, oui, j'ai cru bon à un moment donné de prendre position, de signer un manifeste à l'époque contre la pénalisation des clients des prostituées. Des prostituées elles-mêmes, voilà. Ce sont des travailleuses sociales, ça s'appelle, ce sont les travailleurs et les travailleuses sociales, prostituées hommes, prostituées femmes et transsexuelles. C'est des gens qui travaillent, qui ont le droit d'avoir la sécurité sociale, une protection sociale, etc., etc. Et surtout, ils ont le droit de vivre et de ne pas être assassinés. Et d'être défendu autant que les autres par des syndicats. Il y en a peut-être plus aux États-Unis qu'en France. Je ne sais pas s'il y en a pas. Il y en a un en France. Des organisations. Voilà. Bon, je ne veux pas non plus prêcher pour cette paroisse-là puisque j'ai laissé tomber le militantisme. Mais si je m'engageais dans une cause, peut-être finalement que ça soit celle-là.
Et tu évoques le syndicat du travail sexuel dans ton roman Rue de Gibraltar. Alors, il y a aussi une activité. Alors, elle est très cérébrale. À laquelle Stan se livre, c'est que, je cite, « il fait ce qu'il sait faire le mieux, comme son père, il rêve ». Oui. Et il est beaucoup question de rêve. Oui. Il rêve d'ailleurs, il rêve d'avoir une maison pour s'y sentir bien.
Oui.
Or, le rêve, c'est quelque chose qui... Ça ne peut pas être une injonction, on ne peut pas, c'est comme lire, on ne peut pas obliger quelqu'un à lire, on ne peut pas obliger quelqu'un à rêver.
Non.
Et il y a un moment, Patrick, dans le roman, c'est Stan, à travers toi, qui s'interroge sur l'organe physique qui peut-être serait à l'origine des rêves. Alors oui. Ça, c'est puissant, c'est scientifique ou c'est une...
Je ne sais pas.
Non mais c'est très...
Pas, c'est pas prétentieux.
C'est cérébral.
Oui.
Ou est-ce
oui.
que le rêve viendrait d'ailleurs, pas des poumons, du cœur de...
Je pense que il faut, enfin, le rêve, c'est une respiration, oui, quelque part, oui. Puis j'évoque à un moment ce livre de L'Ecclésio, qui est comme un grand poumon, parce que c'est un livre qui est entièrement bâti sur le rêve, dont l'héroïne est en fait une ondine, c'est une particule d'eau, c'est tout sauf un être humain. Et en fait, elle va partout, et elle est dans la fumée des cigarettes, elle est au bord de l'eau, elle est ici, elle est là. Et il a fait un roman qui, à mon avis, n'est pas vraiment un roman, mais enfin, qu'il a appelé roman, et c'est très... J'évoque ce livre comme étant un poumon supplémentaire, oui, voilà. La lecture est un poumon supplémentaire, le rêve est un poumon supplémentaire, voilà. Peut-être la pensée.
Une grande respiration, donc.
Oui, un cœur qui bat aussi, oui, tout ça est vrai, oui, c'est organique, oui, oui, absolument.
Le cœur de Stan bat aussi, il rêve, il a besoin de reconstruire un avenir parce que là, il est dans le chagrin. Lola, la prostituée qu'il a rencontrée, effectivement, est un coup de foudre qui va offrir à son existence un pansement, en tout cas. Et surtout, il a besoin de voyager, il a besoin d'ailleurs.
Oui.
Et l'ailleurs aussi, dans le roman, c'est que tu nous transportes avec Lola et Stan dans une ville italienne,
oui.
Une ville de bord de mer, oui. Qui est une ville italienne d'ailleurs proche d'une frontière.
Hein. Oui.
Tu nous en parles de cette ville et tu la nommes.
C'est l'ancienne frontière, il y a longtemps, entre la Yougoslavie et puis je ne sais plus exactement.
La
Yougoslavie et l'Italie.
Et l'Italie, exactement. Donc c'est la ville de Trieste.
C'est la ville de Trieste. Alors rien
que tu connais.
Oui, j'y étais, mais il y a longtemps. Et j'étais effectivement avec une compagne à l'époque, etc. Oui, j'ai vécu une forme de passion itinérante en revenant d'Orient. En voyageant avec les moyens du bord, c'est-à-dire le plus souvent en stop, et je me suis arrêté, nous sommes arrêtés à Trieste, où là, il y a un certain Nino qui s'occupait de nous, qui nous a logés, etc. Et c'est une ville magnifique, enfin, c'est une ville frontière, c'est une ville de rêve, parce que, enfin, c'est des villes où on a l'impression qu'on restera pas, mais on peut rester, mais en fait, on reste pas. C'est un peu comme. On a dit ça de Venise aussi, mais j'étais beaucoup plus sensible à Trieste qu'à Venise. À Venise, je me sens enfermé. Je ne sais pas pourquoi, il y a trop de... Enfin, bon, c'est pas l'objet de l'émission.
Mais Venise, il y a trop de touristes.
Il y a surtout trop de touristes. Et Trieste, c'est la ville aussi, effectivement, de James Joyce. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont passés là-bas. Et il y a Svevo, le fameux Svevo. Il y en a d'autres, quoi.
Alors justement, il y a le James Joyce Bar.
Oui, il y a le James Joyce Bar, oui, c'est ça, qui est un grand bar à brasserie, très confortable, assez chic, avec des photos, des cadres, avec des plusieurs photos de James Joyce, avec ses petites lunettes rondes, et en costume, enfin, comme étaient les écrivains des années 20-30, toujours bien habillés. Et puis, ce fameux James Joyce, complètement fou... révolté à sa façon et
alors justement,
alcoolique lui aussi.
Oui, gros problème d'alcool, James
oui,
Joyce.
Oui, ben oui, oui. Oui, oui, on le trouvait dans les. Je ne sais plus quel écrivain disait, il le ramassait dans un caniveau des fois de temps en temps, quoi. Oui, c'était vraiment le.
L'ivresse est présente. Effectivement, Stan a dû la connaître. En se brûlant les ailes, il le dit d'ailleurs au début du roman, « Ne me suis-je pas brûlé les ailes contre les néons des bars, les becs de gaz et les feux des villes ?»
Oui, tout à fait.
Cette errance, cette ivresse, c'est aussi une ivresse amoureuse avec Lola qui le fait décoller et qui aussi, c'est lui qui fait le choix de quitter cette ville de Sète qui ne lui convient pas, mais on a l'impression qu'il n'est bien nulle part.
Oui, il y a ça aussi. Ben, Il est errant, il est nomade. Donc les nomades sont-ils bien quelque part? Allez savoir. Ils sont bien dans le déplacement. Ça ne veut pas dire qu'ils font des milliers de kilomètres. Hein. Il ne fait pas non plus le tour du monde. Trieste, c'est pas loin. Hein. Et puis il revient de toute façon. Il rôde.
Oui, c'est un peu un va-et-vient, Sète, Trieste, oui. Nevers, oui. Paris, oui, voilà. Il y a beaucoup comme ça.
Oui.
Mais alors, Nevers.
Ah ben Nevers.
Alors, je n'ai absolument rien contre Nevers, ville que je ne connais que très peu, Patrick. Pourquoi avais-tu le désir d'évoquer Nevers dans ton roman, alors que le point de départ, nous sommes à Sète, dans des villes portuaires comme
oui.
Trieste.
Ben oui.
Pourquoi Nevers?
Justement, comme il est un peu fantasque, bah oui, il vient de Sète, il va à Trieste, puis ensuite il pense à Nevers et il y va parce qu'il trouve, il rencontre à Sète un Français qui va à Paris, qui lui dit « Écoute, je t'emmène où tu veux ». C'est assez drôle, mais ça arrive dans la vie. Et il lui dit « Je veux aller à Nevers, j'ai des affaires à récupérer ». Il a un pressbook de son ancienne femme, Vera, à récupérer. Il a aussi un beau-frère, parce que son père s'est remarié après la mort de sa mère. Et donc, il a quelques affaires à récupérer. Mais alors, Nevers, je connais Nevers depuis longtemps.
Toi-même, personnellement?
Je connais très, très bien Nevers. C'est la ville que je connais le mieux, sans doute avec pas Trieste, mais peut-être Paris et, je ne sais pas, peut-être Chalon-sur-Saône où j'habite en ce moment. Ou des plus petites villes du sud que j'ai connues. Mais je connais mieux Nevers que Montpellier ou Toulouse. Ville où j'ai vécu aussi. Et Nevers est une ville fascinante. Alors, je le dis, c'est un peu provocant. Il n'y a pas la mer, hein, mais il y a un fleuve, il y a la Loire. La Loire, c'est un fleuve très large et souvent très sec, qui n'est quasiment pas navigable. Et quand on franchit ce pont avec 20 arches, le pont Saint-Pierre, je ne sais plus comment il s'appelle, on se retrouve dans un quartier avec des maisons, de solides maisons, où on a vraiment envie d'habiter. C'est tellement calme. Qu'on trouve souvent d'ailleurs dans des villes de province autres. Mais Nevers, il y a quand même plusieurs choses. Il y a eu la fameuse Sainte Bernadette, la Sainte de Lourdes, qui a quitté Lourdes parce qu'elle était en train de devenir une star et ça ne l'intéressait pas. Elle posait ses mains et elle faisait des miracles. Elle posait ses mains sur celles des gens, elle les guérissait. Bon. C'est drôle. Mais elle en a eu marre d'être envahie par les paparazzi. Elle est venue se cacher chez les sœurs de Nevers. Donc vous avez cette abbaye magnifique et on a surtout la chasse, avec un accent circonflexe sur le A, où on peut voir cet enfant de 16 ans, 18 ans, qui est morte très jeune et qui faisait des miracles. Il y a ça. Il y a aussi le film Hiroshima mon amour, qui a été tourné là-bas, la moitié, au Japon, la moitié, et Nevers est comparé, le pont de Nevers fait penser au pont d'Hiroshima, parce qu'il y a aussi un pont, etc. Nevers est une ville qui a été bombardée deux fois, qu'on a pris plein la figure, etc., etc. C'est une ville, et c'est une ville qui est belle, parce que il y a une descente en terrasse sur la Loire, la place de la République, il y a un vieux théâtre, c'est une ville avec des petites montagnes, quoi, des petits, ça monte, ça descend, et c'est très très beau, voilà. J'en oublie, mais enfin voilà déjà des bonnes raisons d'aller voir Nevers et les Nivernais ou les Neversois, on peut dire les deux, sont des gens très sympathiques. Curieusement, ils sont différents des autres gens de Bourgogne. Alors là, je m'amuse à faire des particularités, mais ils sont un peu frottés de Paris, qu'il y a quelque chose en eux de tout à fait évolué, civilisé, citadin, je dirais, et en même temps, c'est des gens tout à fait paisibles. Voilà, et quoi d'autre encore, hein? Bon, enfin, il y a plein de choses, hein. Il y avait dans ce quartier dont je parle derrière, quand on passe le pont de la Loire, il y avait une magnifique, qui a été détruite il y a 30 ans maintenant, piscine avec de la mosaïque, enfin, il y a des livres sur Nevers qui sont, voilà, pour le coup, il faut s'intéresser à cette ville-là.
Petite déambulation dans Nevers, extrait de rue de Gibraltar. Donc c'est Stan qui retourne à Nevers, parce qu'il veut se mettre en quarantaine à Nevers. Hein. Il emprunte un trajet qu'il aime. Il gagne la place du Palais Ducal, puis contourne la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julite pour descendre en zigzag par la rue Casse-Cou, la rue des Ratoirs, puis la rue des Belles Lunettes, jusqu'au quai des Mariniers. Il reconnaît un café dont l'enseigne n'a pas changé depuis 30 ans. Les Arcandiers, nom qui est devenu plus tard le titre d'un film. Il se souvient du flipper, du baby-foot et du jukebox qui attiraient la jeunesse. Une pancarte derrière la vitrine annonce que l'établissement est à vendre.
Absolument. Alors, c'est la dernière chose dont il fallait parler pour Nevers, c'est les arcandiers. Qu'est-ce que ça veut dire que ce mot-là ?
Qu'est-ce donc qu'un arcandier ?
Bah,
parce qu'il n'est pas dans le dictionnaire.
Mais non, mais personne ne le sait. C'est un voyou, un chiffonnier, un ferrailleur, quelqu'un qui chiffonne et qui ferraille, qui habite Nevers. Voilà. Et les arcandiers, il y a eu un film, j'ai oublié le nom de Lopez Sanchez, je crois, le metteur en scène, avec un acteur qui est mort maintenant qui s'appelait Julien Labrosse. Et c'est l'histoire de trois ou quatre gars,
voyous,
qui veulent une voiture, une DS à l'époque, etc. Et qui vont d'ailleurs capturer, qui croient qu'ils ont capturé justement la sainte, qui ont volé la sainte dans la cathédrale à l'époque. Et puis qui foncent. Et leur projet, c'est d'aller en Bretagne, d'aller à Nantes en suivant la Loire. Et les voilà partis, à fond la caisse, complètement ivres, en chantant du Johnny, je ne sais plus quelle chanson ils chantent, et ils se plantent très vite contre un platane. C'est les pauvres gars de voyous qui picolent de la campagne, mais c'est très très touchant, quoi. C'est vraiment les arcandiers, voilà. Et à un moment, Stan dit « je suis pour rigoler avec une fille un peu ». Prout, prout, il lui dit « je suis un arcandier ».
Rue de Gibraltar, c'est le titre du roman de notre invité Patrick Chavardès qui nous accompagne jusqu'à midi sur Radion en ce samedi 16 novembre 2024. Cher Patrick, on marque un nouvel intermède musical. Eh bien, on va écouter Iggy Pop,
ah oui.
La javanaise,
ah oui.
Puisque le titre notamment apparaît dans ton dernier roman « Rue de Gibraltar » paru aux éditions Banlieue Est. On se retrouve d'ici quelques minutes.
J'avoue, j'en ai bavé, bravo, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Iggy Pop, à l'instant dans Wagon Livre, oui. Iggy Pop, la javanaise. Oui. Patrick, un petit commentaire ?
Un petit commentaire, Iggy
puisque
Pop
le titre est mentionné
Iggy
dans
Pop
ton roman.
Avec sa merveilleuse voix grave. Oui, bah, il est encore là, Iggy Pop, c'est une star qui dure avec quelques-uns. Il reste Quelques-uns. Les Stones et puis un Beatles peut-être. Enfin bon, le temps passe et ils s'en vont.
Alors tu es là.
Revenons-y, oui.
Tu es là effectivement cette fin de matinée dans l'émission littéraire de Radion avec ton dernier roman Rue de Gibraltar. Nous parlions, et tu en parlais avec beaucoup d'enthousiasme, tu parlais de Nevers puisque le roman nous conduit à un moment à Nevers avec Stan qui renoue avec un passé et une histoire familiale, plus précisément avec cette marraine qu'il a beaucoup aimée, qui était une institutrice.
Le livre a failli s'appeler Marthe Bourdier, c'est son nom. Dois-je dire que c'est son vrai nom ? Peu importe, bon, des Bourdiers, il y en a beaucoup, et des Marthe, il y en avait aussi à l'époque. Mais c'est une sœur à sa façon, c'est quelqu'un, une grande femme énergique, qui est restée célibataire toute sa vie, bon, qui est devenue vieille fille et tout, mais qui a un filleul, et c'est Stan, son filleul, et elle l'emmène en vacances.
Ce qui est surprenant, c'est qu'il est plus question, Patrick, je t'interromps, je te prie de m'excuser, mais il est beaucoup plus question de la marraine que de la mère ou du père. On a l'impression que les parents sont absents.
Oui, ben, je ne sais pas, c'est comme ça.
En revanche,
j'avais envie de parler d'elle, voilà. Je voulais lui rendre un hommage. De temps en temps, dans un roman... on veut rendre un hommage à quelqu'un et là c'est pour elle quoi. C'est pour ça que je dis le roman, si je le réécris un jour, je l'appellerai Marthe Bourdier. C'est bien comme titre, non? Ça va attirer les foules.
Je souhaiterais qu'on s'arrête sur le thème du suicide. J'ai dit tout de même que c'est pas ce qui domine le roman, mais il en est souvent question. D'abord, Vera, sur son lit d'hôpital, se sachant condamné, avait demandé à Stan de lui procurer des médicaments pour se suicider. Oui. Stan rappelle à un moment aussi qu'il a connu un camarade de classe qui s'est laissé mourir de faim sans qu'il ne s'en rende compte. Oui. Il y a un moment, alors que Stan va sur la tombe de la marraine au cimetière de Nevers, non loin de lui, il y a la tombe de Pierre Bérégovoy. Or, on sait que Pierre Bérégovoy s'est suicidé le 1er mai 1993. Il avait 68 ans.
Exactement,
ça a été un grand choc dans le pays, tout de même, on s'en rappelle.
Oui.
François Mitterrand.
Je connais des gens à Nevers qui l'ont connu et qui le pleurent encore, oui, bien sûr.
Et puis, Patrick, je veux que tu nous parles de cet écrivain italien qui lui-même s'est donné la mort le jour, le 27 août 1950, qui dans le roman est la date de naissance du père de Stan.
Oui, exactement, oui.
Un mot sur César Pavese.
Ah, César Pavese, un grand écrivain italien qui a vécu dans le Piémont, qui n'a jamais quitté l'Italie, qui n'a jamais quitté le Piémont, et qui aurait peut-être voulu se marier, avoir des enfants, mais n'a pas pu, qui a aimé des femmes, qui a été aimé des femmes et qui a toujours été malheureux. Alors après, je ne sais pas, je pense que c'est un grand mélancolique dépressif, et que ça devait friser la pathologie. Il a cru un moment qu'il s'en sortirait, il a cru dans le Parti communiste italien, où il a été, puis il l'a quitté, donc il a fait cette expérience-là, quoi, voilà. Et il a écrit plusieurs livres, très beaux, très mélancoliques, tristes, mais très beaux, et puis évidemment des poèmes, le fameux La mort viendra, elle aura tes yeux, qui a été chanté, mis en musique par Philippe Léotard, qui lui aussi est un très grand mélancolique.
Le métier de vivre, hein, c'est le titre du journal donc de César Pavese. Ça couvre c'est un journal, hein, c'est pas un roman. Oui. Ça couvre la vie de César Pavese de 1935 jusqu'à sa mort, quoi.
Voilà.
Août 1950.
C'est un des plus beaux journaux d'écrivains que je connaisse. C'est riche de pensées. Hein. C'est vraiment, c'est très très. Très riche de pensées et tout. Et sur l'amour, sur la vie, sur la mort, sur... Le suicide, il en parle peu. D'ailleurs, la fin, il dit... il avait marqué sur... On a trouvé, je crois, sur la commode dans l'hôtel, juste une phrase. Je n'écrirai plus. Pas de commentaires. C'est fini. Quelque chose comme ça, quoi. Voilà. C'est extrêmement laconique. Et c'est suicidé avec des médicaments, d'ailleurs.
Oui, il a pris une boîte de somnifères. On a retrouvé la boîte sur la table de nuit de la chambre d'hôtel à Turin où César Pavese s'est donné la mort. Les chambres d'hôtel ont leur importance aussi dans le roman.
Oui, il y en a un certain nombre.
Tu parlais de Jean Genet. Jean Genet a pratiquement toujours vécu à l'hôtel.
Oui, tout à fait.
Et est-ce ridicule d'essayer de comprendre le suicide ?
Ridicule, oui.
Ou est-ce que c'est vain d'essayer de comprendre ?
On peut comprendre des choses, on peut... La plupart du temps, quand quelqu'un se suicide, les gens disent « Oh non, pas lui, je m'y attendais pas » et tout. C'est que les gens quand même se mentent aussi. On voit bien quand quelqu'un est extrêmement dépressif et surtout quand il en parle un peu. Alors on dit « Oh, ils en parlent, mais ils ne le font pas ». Mais si, il y en a qui le font. Ils en parlent 10 fois, la 11e, c'est la bonne. Moi, j'ai eu des amis, 2 ou 3, enfin, 3 qui se sont suicidés. Et, oui, celui qui s'est mourant de faim, un autre d'une façon beaucoup plus barbare, etc. Bon, enfin, on ne va pas non plus trop parler de ça. Parce que
et que penses-tu difficile. De cette citation d'Émile Cioran qui écrivait, je l'aime beaucoup, « On se suicide toujours trop tard ».
Ah oui, mais lui, Émile Cioran, il avait de l'humour, mais il ne s'est pas suicidé.
Non, il ne s'est pas suicidé, non. Mais je te demandais que t'inspire « On se suicide toujours trop tard ». Ça te fait sourire ?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il aurait été agréable de se promener dans Paris avec Émile Cioran et d'avoir des conversations sur la vie, l'amour et la mort.
Ce roman Rue de Gibraltar, sa fin est une fin un peu ouverte. Oui. Tu nous laisses la possibilité peut-être de l'écrire, voire la rêver, puisque... Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant, il en est question beaucoup.
Il n'est jamais tout à fait la même, ni tout à fait une autre, et même me comprend, car elle
alors,
me comprend.
Justement, on a l'impression que Stan doit sauver sa vie, rebondir, échapper à un deuil mortifère et continuel. Il veut aussi, et surtout il réussit quelque chose dans le roman, c'est qu'il sort Lola du milieu de la prostitution, non
oui,
sans mal.
Sans le vouloir.
Alors, oui.
C'est pas non plus un sauveur, il faut pas exagérer, elle le sauve aussi de quelque chose. Quoi exactement, j'en sais rien, mais bon, ils se sauvent tous les deux, sauf qui peut, mais ils se sauvent, ils partent main dans la main, quoi. Et on peut penser ça, oui, moi c'est ce qui me plaît de penser. Effectivement, c'est une fin suspendue, je dis pas ce qu'il en sera, mais enfin, il faudrait que j'écrive la suite, mais là...
En tout cas, on peut dire que Stan va nourrir Lola de texte. Il lui raconte d'ailleurs sa propre histoire, calquée sur, j'allais dire, le synopsis du roman de Roger Vaillant, Les mauvais coups, qui est un roman paru en 1948, d'ailleurs.
Oui, très, très fort.
Un petit mot.
Roger Vaillant, grand écrivain, surréaliste, libertin, communiste, enfin les grandes phases des grands écrivains de l'époque, un peu comme Kessel et tant d'autres, et qui a écrit plusieurs romans, dont Les mauvais coups, un livre qui se passe à la campagne entre une institutrice et un mari d'institutrice et une autre personne, une histoire de... d'adultère, etc. Ou plus exactement, le narrateur, qui s'appelle d'ailleurs Milan, ça me revient, est marié, il a une femme, et il tombe amoureux de la jeune institutrice qui vient d'arriver dans le village ou dans la ville, je ne sais plus où exactement. Ça se termine mal, ça se termine d'ailleurs par le suicide de la femme du narrateur, ça me revient. Comme quoi, il y a des suicides, il y en a partout.
Pour terminer l'émission, phrase extraite de ton dernier roman, Rue de Gibraltar, « Qu'il est doux d'être idiot dans ce monde tellement intelligent ».
Oui, tout à fait. C'est de qui ça ?
Patrick Chavardès.
Voilà une phrase simple qui dit ce qu'elle dit. J'ai rien à rajouter.
Alors, deux belles phrases que j'ai notées. Oui. « Deux jeunes affamés ne veulent pas dormir et mordent à pleines dents dans la chair de la nuit. » Ça, c'est vraiment très, très joli. Il y a quelque chose de gourmand, de charnel. Oui. C'est aussi ce qui... Sensualité, la chair, ce sont des éléments essentiels dans le roman. Et puis, une autre phrase que j'ai... Il y en a d'autres, mais... « Nevers est un podium désert et ma mémoire un hall de gare. »
Oui.
J'aime bien.
Oui.
On va en rester là sur le périple de Stan, 7, Nevers, Trieste, Paris, 7, Nevers. Voilà. Cette errance, ce personnage bouleversant, bouleversé par le deuil de Vera et qui renaît grâce oui. à cette prostituée qui est sensible, ouverte à lui. Et puis, il y a peut-être une œuvre littéraire en cours d'écriture et à venir pour Stan. Il écrit son avenir, mais il va écrire aussi une œuvre, en tout cas. Et c'est dans Rue de Gibraltar de notre invité Patrick Chavardès. Merci, cher Patrick. 12 ans après, il était temps que nous réenregistrions une émission pour Radion.
Oui, bien sûr.
Bon congé de fin de semaine à toutes et à tous. Si vous voulez réécouter cette émission ou si vous en avez manqué une partie, www.yannickpetit.fr. Et je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h. Patrick, sur quelle antenne ? Sur Radion. Oui. Et je rappelle que le roman est disponible aux éditions Banlieue Est. Merci à toutes et à tous. Au revoir, Patrick Chavardès.
Merci, au revoir.
Et à une prochaine. Au revoir à toutes
bientôt.
Et à tous.